Et merci d'être avec nous. J'espère que vous passez une belle matinée. Des heures passées de 5 minutes sur France Bleu Loire Océan. C'est la vie en bleu côté cuisine avec dans un instant les moments choisis avec Gicolio. Nous parlerons notamment des lentilles. Nous parlerons également du bar. Le bar Le Poisson, bien sûr. Ça sera dans un instant juste après Piano et Mandoline. Et dans Piano et Mandoline, on parle de l'attendrisseur à viande.
Ah oui, moi je pense que je suis quelqu'un de tendre. Et aussi avec la nourriture, que j'essaye de traiter avec la plus grande tendresse.
Piano et Mandoline, la musique de la cuisine, Capucine Fraîche.
L'attendrisseur, que l'on appelle aussi aplatisseur, sert à battre la viande. À première vue, ça paraît brutal. Et pourtant, c'est bien grâce à cet ustensile que nous pouvons nous émouvoir en dégustant des paupiettes, un carpaccio ou une escalope milanaise.
Mais quelle horreur, c'est un objet épouvantable. Comment est-ce qu'on peut attendrir quelque chose en tapant dessus?
Ah oui, mais enfin, c'est un morceau de viande. C'est pas un animal, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas un enfant. Donc moi, je vois pas d'inconvénient. Hein.
Mais je mange pas de viande, moi.
Non, mais de toute façon, j'ai jamais attendri la viande, donc je me sens pas très concerné quand même.
D'ailleurs, on parle pas de tendresse pour un morceau de viande, on dit tendreté.
Le modèle que l'on trouve le plus couramment dans le commerce est le maillet, une sorte de marteau à deux faces. L'une dotée de petits picots en forme de pyramide pour piquer et attendrir, et l'autre lisse et plate pour aplatir. L'objectif est de briser avec finesse les fibres musculaires de la viande, soit pour amincir son épaisseur et obtenir une cuisson plus rapide et plus homogène, soit pour augmenter sa surface et permettre, par exemple, de la farcir. Entrons dans la boucherie de Vincent Gérard.
On va donner quelques petits coups de pression, sans trop abuser, parce que si vous tapez trop fort, vous risquez de carrément éclater la fibre, et là, vous allez voir du haché. Avec le poids, je vais faire un petit peu comme un fer à repasser. On vient frapper l'escalope, et on va lisser. On tape, et on allonge. Soit en avant, soit sur le côté. Voilà, j'ai une escalope qui a pratiquement pris un tiers de plus.
Pour ne pas trop casser les fibres de votre viande et permettre à votre maillet de glisser davantage, enfermez vos escalopes dans un sac de congélation, du film alimentaire ou de feuilles de papier sulfurisé.
C'est dans le terme du métier des bouchers, on appelle souvent l'aplatisseur la belle-mère. Peut-être que la belle-mère avait une mauvaise réputation avec le gendre. Peut-être.
Piano et Mandoline, à réécouter et à podcaster sur francebleu.fr.
Et tout à l'heure, nous nous intéresserons à cet autre outil, cet autre instrument de cuisine, la pince à désarrêter. Et avant ça, on va retrouver les moments choisis de la vie en bleu côté cuisine, juste après le titre de Johnny Hallyday. Voici quelque chose de Tennessee sur France Bleu Loire Océan.
À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.
Quelque chose de Tennessee, c'était Johnny Hallyday sur France Bleu, Loire Océan. C'est la vie en bleu côté cuisine pour vous accompagner jusqu'à 11h avec les moments choisis. Et on va retrouver dans ce moment choisi, eh bien, Gilles Colliot qui parlait avec Pascal Roy du restaurant Totem Cantine Bio. Il nous parlait des lentilles.
On peut faire un petit cours d'histoire autour de la lentille. Elle vient d'où, cette lentille?
Alors, les lentilles viennent du champ d'à côté. Mm-hmm. Non. Non, c'est très ancien. Une légumineuse qui a été cultivée depuis, je crois, les premières trouvailles sont faites il y a 9000 ans, justement. 8000, 9000 ans. C'est en Mésopotamie, par contre. Et on a retrouvé des traces en Iran de 8000, 9000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est extrêmement ancien. Et on la trouve même dans la Genèse, donc dans la Bible, dans le livre de la Genèse. On la trouve puisque c'est le fameux épisode de Ésaü et de Jacob. Ésaü qui vend son droit d'aînesse, c'est-à-dire son droit à l'héritage de son père, pour un plat de lentilles. Il revient de la chasse. Il a rien fait à la chasse, il a faim, il demande à son frère de cuisiner, il propose un plat de lentilles. Voilà. Et grâce à ce plat de lentilles, son frère a eu le droit d'aînesse, donc l'héritage. L'histoire est beaucoup plus longue, mais ouais. Ça atteste que effectivement les lentilles sont d'une tradition culinaire très ancienne.
Et j'ai l'impression que la lentille revient au goût du jour.
Oui, ça recommence parce que lentille, quand il y a quelques années ou une dizaine d'années, une vingtaine d'années, c'est considéré comme le plat du pauvre. Hein, on ne sait pas quoi faire avec. Voilà.
C'est un peu pareil.
Il y a encore certains pays comme la Grèce où c'est considéré comme le plat du pauvre justement, et d'autres comme l'Italie où c'est signe de prospérité. Mmh. C'est deux choses très très différentes. Mais maintenant, ça revient à la mode. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la cuisine fusion, c'est-à-dire c'est l'apport de cuisine d'autres parties du monde que la nôtre et qui viennent fusionner avec notre cuisine à nous. Donc, en ce moment, on trouve beaucoup dans les restaurants des dalles de lentilles, par exemple. C'est un plat indien à base de lentilles corail principalement, ou des lentilles un petit peu différentes. Voilà, qui est à base de lait de coco, de curcuma, de gingembre, etc. Donc, on trouve tout ça maintenant dans des plats qui deviennent à la mode. C'est ça qui est intéressant, justement. Et comme il y a beaucoup de possibilités de les assaisonner, les accommoder de l'assaisonner, ça en fait un plat maintenant tendance.
Puis, véritable mine d'or, hein, nutritionnel.
Ah oui, nutritionnel. Donc, on parle des fibres, bien sûr, en protéines. 24% du poids en sec est composé de protéines dans la lentille. C'est énorme.
Ah, c'est énorme.
C'est une des plantes les plus complètes. Il y a des sels minéraux, bien sûr, la vitamine B, B2, B9, etc. Vous avez du fer. C'est un des légumes les plus chargés en fer, justement. Voilà. Donc c'est très bon pour la santé. Il y a des antioxydants. C'est bon aussi pour votre santé cardiovasculaire. C'est bon. Enfin, c'est un plat qui est bon pour la santé, excellent pour la santé et excellent en goût.
Allez, on va commencer par une première recette, parce que c'est important, évidemment, de changer, de renouveler la cuisine du quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, Pascal Roy ?
Alors, c'est la mode aussi des tapas. Alors, les tapas, on voit aussi partout des houmous. Enfin, le houmous traditionnel, c'est le houmous fait avec du pois chiche. Et ben, vous allez faire un houmous avec des lentilles. Voilà, ça va changer un petit peu.
D'accord.
Et vous serez complètement dans la tendance, vous allez voir. Donc, houmous de lentilles corail. Alors, les lentilles corail, c'est toutes petites lentilles qui sont déjà décortiquées, qui sont oranges. Elles ont gros avantage, c'est qu'elles cuisent très rapidement et qu'elles s'écrasent. Donc très rapidement, donc vous faites pas de salade de lentilles par exemple avec de la lentille corail, vous en faites avec de la lentille verte par exemple. Mais donc vous allez prendre pour un grand bol de houmous, vous allez prendre 250 g de lentilles corail, c'est généralement le poids que vous trouvez pour un sachet. Alors vous prenez de la lentille bio aussi. Hein, ça sera mieux pour
c'est important.
Vous. C'est important. Vous allez mettre un peu de lait de coco, c'est-à-dire 50 grammes. C'est-à-dire vous faites cuire votre lentille corail. Vous n'avez pas besoin du tout de la laver ni de la faire tremper, la lentille corail. Donc vous faites cuire avec 50 grammes de lait de coco à peu près une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre, 10 à 15 minutes. Vous avez des tomates séchées ou de la tomate traditionnelle, mais c'est meilleur avec de la tomate séchée. Vous mettez quelques morceaux, 5-6 morceaux de tomates séchées. Une belle gousse d'ail, donc épluchée et dégermée. Vous mettez de l'huile d'olive un peu fruitée, de la bonne huile d'olive là que vous avez rapportée de vos vacances. Mais vos vacances, ça peut être en France. Hein. L'huile d'olive de Nyons, par exemple, elle est superbe. Un peu de curcuma, si vous avez du curcuma frais, c'est encore mieux. Autrement, le curcuma en poudre. Un peu de jus de citron, du sel, du poivre. Donc, vous faites cuire vos lentilles dans votre lait de coco que vous avez un peu salé. Vous recouvrez une fois et demie d'eau. Et puis, bah, vous égouttez un peu ce qui reste. Et vous mixez tout, tout simplement, dans un bol avec ce qu'on appelle un mixeur plongeant. Et vous rajoutez votre jus de citron après. Vous rectifiez en sel. Et voilà, vous mettez au frigo, pas trop froid non plus. Vous mettez ça sur des tartines ou sur une rondelle de concombre, par exemple. Ça fait aussi très bien. Et ça vous fait vos tapas et votre apéro.
Et dans un instant, après le titre de Prince, nous retrouverons un nouveau moment choisi de la vie en bleu côté cuisine avec Gilles Colliot. Moment choisi dans lequel nous parlerons de poissons avec le bar. Prince sur France Bleu, Loire-Océan. Et c'est la vie en bleu côté cuisine avec toujours les meilleurs moments. Et je vous propose à présent de retrouver Gilles Colliot avec Christophe François des Champs d'Avril qui nous parlait il y a quelques temps sur France Bleu, Loire-Océan du bar, ce fameux poisson.
On va commencer par les cuissons peut-être du bar.
On va commencer par les cuissons du bar. Bar entier, bar portionné deux méthodes différentes, mm-hmm. avec la peau, sans la peau, sur écaille. Voilà mm-hmm. tout ce qu'on pourrait déjà faire au barbecue, en papillote, à la plancha. Mm-hmm. Il y a plusieurs trucs. Moi, je l'ai fait cet été, on a pêché les bars, à la plancha, légèrement grillé, non écaillé, légèrement mis sur la plancha avec les écailles, juste vidé. Et à l'intérieur, on glisse des aromates, du thym, du laurier, du machin, etc.
D'accord.
Et on le cuit comme ça, sur peau. Les écailles vont légèrement souffler avec l'huile, etc. vont griller. Mm-hmm. Bien sûr, après, on va pas les manger. Ou on peut les manger, parce que moi, des fois, quand j'ai des gros bars, je garde les écailles, je vais les faire souffler dans de l'huile pour D'accord. un côté croustillant.
Okay.
Mais on les garde comme ça, et vous l'ouvrez après, vous récupérez les chairs et vous mangez ça avec un beurre blanc, une sauce vierge, donc une sauce vierge, huile d'olive, citron, des tomates, plein d'herbes, des échalotes, etc. Et on pose dessus. C'est un poisson qui est délicat. C'est un poisson que quand vous cuisez un poisson entier, pour le savoir la cuisson, vous prenez une pointe de couteau et vous allez piquer juste derrière la tête, voir si ça s'enfonce tout doucement. Si derrière la tête, ça cuit, c'est-à-dire que tout le reste est cuit.
D'accord. Derrière la tête.
Derrière la tête, juste derrière mm-hmm. la tête. Derrière les
Ça, c'est une bonne astuce.
Ça, c'est derrière les ouïes, c'est là la partie la plus épaisse. Et si là, c'est cuit, bah, généralement, le reste est tout cuit. Quoi. Mm-hmm. Même des fois un peu trop cuit. Donc, il faut savoir juste doser ce niveau-là.
Là, on était à la plancha.
Là, on était à la plancha. Au barbecue, c'est pareil. Donc, pareil, si vous voulez. Mais ce qui est difficile avec le barbecue, c'est qu'il ne faut surtout pas que ça crame.
Mm.
Après, on peut le faire bar en croûte aussi.
Alors, on fait comment?
On fait un mélange avec du gros sel, de la farine, de l'eau. Mm-hmm. On pose notre bar sur une plaque. Légèrement huilé, on va poser notre bar, on va le farcir pareil avec des herbes, on va le recouvrir avec cette pâte, et là on va le cuire au four. Alors toute la difficulté, c'est de savoir quand il est cuit. Mmh. Pas trop cuit, ni pas assez. Mmh. Soit vous avez des sondes, vous piquez votre sonde dedans, puis vous allez avoir que quand on arrive à 48, 50 degrés, votre poisson il est cuit. Soit après, bah, pareil, même technique, pointe de couteau, vous savez à peu près où est la tête, pointe de couteau, etc. Soit ils le font aussi en croûte de feuilletage, pareil, mais ça c'est encore un peu plus complexe. C'est une des spécialités d'ailleurs que chez Paul Bocuse à Lyon, quoi. Voilà, ouais. Il fait son bar en croûte et c'est vraiment le plafard.
Là il faut,
faut un peu de maîtrise, ouais.
Ouais, faut un petit peu de maîtrise.
De maîtrise parce qu'il faut maîtriser la cuisson à l'intérieur d'un truc où on le voit pas.
Ouais, mais la chair sera pas dénaturée.
Non, au contraire, ça va faire un espèce de feuille de cocotte. D'accord. Ou alors on va voir le poisson qui va cuire un petit peu dans son jus. C'est un poisson qui a un petit goût iodé. C'est très fin. C'est très très fin et voilà.
Et ça se mange sans fin.
Et ça se mange sans fin. Après, voilà, quand on a des barres beaucoup plus grosses, quand on a des barres de 3-4 kilos, on l'élève en filet, on peut faire des jolis pavés. Et là, c'est ça aussi, c'est intéressant. On peut le cuire justement sur la peau, on peut le mettre en papillote, on peut le faire paner. J'ai une recette qui a été faite ici, c'est par Loïc Pérou, au Manoir de la Régate. C'était son plafard, c'est-à-dire qu'il faisait un bar en croûte d'épices. Et ça, moi, je l'ai goûté une fois, c'était exceptionnel. Ce fameux bar qui était pané dans plusieurs épices. Alors, il avait plein d'épices.
D'accord.
Et les épices fondaient dedans, ça, c'était très bon. Et la deuxième fois aussi, une belle recette où j'ai une belle image, c'était Laurent Sodeau, au Manoir de la Régate, qui faisait ça, un bar. Et il mettait des bigorneaux, il mettait un tas de trucs dedans, plein de coquillages. Bon, ça restait un super bon bar, un super bon plat.
Ouais, j'adore Christophe François parce qu'il n'hésite pas à donner des recettes de ses confrères. Et ça, c'est super sympa.
Mais quand c'est bon, moi, il n'y a pas de problème. Moi, les gens, quand ils travaillent bien, au contraire, il faut les mettre en avant. On fait partie de la même famille, du même métier.
Ah, mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est tout à votre honneur, mon cher Christophe. Anne-Sophie nous appelle d'Orvault. Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, Anne-Sophie. Vous avez une recette, je crois, de tartare, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un tartare de bar aux fruits de la passion.
Mmh. Ah, excellent.
Alors, on vous écoute.
D'accord. Donc, en fait, c'est plutôt un amuse-bouche que je sers en général à l'apéritif. Donc, en fait, je prends un bar le plus frais possible, puisque manger cru, forcément, ça nécessite de la fraîcheur. Donc, en fait, je le découpe, je le passe un tout petit peu au congélateur pour le raffermir un petit peu. C'est plus facile, je trouve, à découper. Donc, ensuite, je le coupe en petits cubes. Je rajoute de l'huile d'olive, du jus de citron vert, si j'ai pas citron jaune, des tout petits morceaux d'oignon rouge. Je prends un fruit de la passion que je coupe en deux, je les vide et je rajoute soit des baies de Sichuan ou des baies roses et des petits cubes de pommes. Et je le sers très très frais, parsemé de ciboulettes ou de ciboules en apéritif.
Ah, c'est sympa.
C'est excellent, le bar se marie bien justement avec ce produit exotique.
Fruit de la passion.
Fruit de la passion, maracuja, tout ça, c'est très 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 chouette. Et elle a raison, en plus de le passer un petit peu au congélateur, les poissons ont besoin d'être passés un peu en cellules pour pouvoir les couper plus facilement.
Voilà. Merci Anne-Sophie pour cette recette, on vous souhaite une bonne route, hein, on sent que vous êtes sur la route. Merci à vous. Bonne journée. Et on vous offre cette lunchbox. Tiens, il y a Michel qui nous signale que le bar pour la pêche sportive et, ou récréative est limité à 3 bars par pêcheur par jour. Alors moi, il me dit 3.
Deux bars par pêcheur. Et puis en plus, ça dépend des endroits de pêche. Mmh. Voilà.
Deux bars, c'est ce que je mets aussi dans mes pneus. Pour faire de la course cycliste.
Deux bars, ouais, c'est pareil. Les gens vont aussi acheter du bar d'élevage.
Ouais.
Et le bar d'élevage et le bar sauvage. Et ben moi, je suis plus pour le bar sauvage et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est tout à fait logique. Vous savez que pour faire 1 kg de bar sauvage, il faut 4 kg de poisson.
Ouais.
De poisson fourrage, de poisson qu'on va récupérer. Mm-hmm. Donc on va prendre 4 kg pour faire 1 kg. C'est pas normal. C'est pas logique.
D'accord.
Donc il vaut mieux prendre un poisson sauvage.
C'est plus raisonnable pour notre planète.
C'est plus raisonnable pour notre planète. Voilà, tout simplement.
Et à suivre dans moins de 4 minutes, un point complet sur vos conditions de circulation en temps réel et d'autres moments choisis avec, côté producteur, ce coup-ci toujours avec Gilles Colliot.
France Bleu Loire-Océan.
merci d'être resté avec nous sur France Bleu Loire Océan. Dans un instant, un point complet sur vos conditions de circulation et suivra un nouveau moment choisi de La Vie en Bleu côté cuisine. Et vous retrouverez également Capucine Prêt pour piano et mandoline.
France Bleu Loire Océan.
La Vie en Bleu,
c'est bleu.
Nathan RLT.